Sa stérilité était infinie.
La conversation chez Pilade m'avait offert le visage extérieur de Belbo. Un bon observateur aurait pu deviner la nature mélancolique de son sarcasme. Je ne peux pas dire que c'était un masque. Le masque, c'était peut-être les confidences auxquelles il s'abandonnait en secret. Son sarcasme donné en représentation publique révélait au fond sa mélancolie la plus vraie. Qu'en secret, il cherchait à se cacher à lui-même, sous le masque d'une mélancolie maniérée. Je vois à présent ce fil où, au fond, il tentait de romancer ce qu'il me dirait de son métier le lendemain chez Garamond. J'y retrouve son extrême rigueur, sa passion, sa déception de conseiller éditorial qui écrit par personne interposée, sa nostalgie d'une force créatrice jamais accomplie, sa fermeté morale qui l'obligeait à se punir parce qu'il désirait ce à quoi il ne sentait pas qu'il avait droit, donnant de son désir une image pathétique et oléographique. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui sût se plaindre avec un tel mépris. Phil Name, Jim de la Papaye. Voir demain le jeune Cinti. Petit 1. Belle monographie, rigoureuse, sans doute un peu trop académique. Petit 2. Dans la conclusion, la comparaison entre Catulle, les Poetae Novi et les avant-gardes contemporaines est la chose la plus géniale. Petit 3. Pourquoi pas en introduction? Petit 4. Le convaincre. Il dira que ses coups de tête ne se font pas dans une collection philologique, il est conditionné par son maître, il risque de se voir sucrer la préface et de jouer sa carrière. Une idée brillante dans les deux dernières pages passe inaperçue, mais au début, on ne la rate pas, et cela peut irriter les mandarins. Petit 5. Cependant, il suffit de la mettre en italique, sous la forme d'un exposé détaillé en dehors de la recherche proprement dite, de sorte que l'hypothèse reste seulement une hypothèse et ne compromet pas le sérieux du travail. Mais les lecteurs seront tout de suite conquis. Ils affronteront le livre dans une perspective différente. Suis-je vraiment en train de le pousser à un geste de liberté ou est-ce que je l'utilise pour écrire mon livre? Transformer les livres avec deux mots. Démiurge sur l'œuvre d'autrui. Au lieu de prendre la glaise molle et de la modeler, des petits coups à la glaise durcie où quelqu'un d'autre a déjà sculpté la statue. Moïse, lui donner le bon coup de marteau. Et le voilà qui se met à parler. Recevoir Guillaume S. J'ai vu votre travail, pas mal du tout. Il y a de la tension, de l'imagination, de l'intensité dramatique. C'est la première fois que vous écrivez?
Non, j'ai déjà écrit une autre tragédie. C'est l'histoire de deux amants véronais qui...
Mais parlons de ce travail, monsieur S. Je me demandais pourquoi vous le situez en France. Pourquoi pas au Danemark? Façon de parler. Et il n'en faut pas beaucoup. Il suffit de changer deux ou trois noms. Le château de Chalon-sur-Marthe devient, disons, le château d'Elseneur. C'est que dans un cadre nordique, protestant, où flotte l'ombre de Kierkegaard, toutes ces tensions existentielles...
Vous avez peut-être raison.
Je crois vraiment, oui. Et puis, votre travail aurait besoin de quelques raccourcis stylistiques, une très légère révision, pas davantage.
Comme quand le coiffeur me donne les dernières retouches avant de vous placer le miroir derrière la nuque. Par exemple, le spectre paternel.
Pourquoi à la fin? Moi, je le placerai au début. De façon que la mise en garde du père domine tout de suite le comportement du jeune prince et le met en conflit avec sa mère.
Ça me semble une bonne idée, il s'agit seulement de déplacer une scène.
Précisément! Et enfin, le style! Prenons un passage au hasard, voilà. Ici, où le garçon vient sur le devant de la scène et commence sa méditation sur l'action et sur l'inaction. Le morceau est beau, vraiment. Mais je ne le sens pas suffisamment nerveux. Agir ou ne pas agir, telle est ma question angoissée. Dois-je souffrir les offenses d'une atroce fortune ou bien...
Pourquoi ma question angoissée?
Moi, je lui ferais dire, c'est la question, c'est le problème, vous comprenez? Pas son problème individuel, mais la question fondamentale de l'existence, l'alternative entre l'être et le non-être, pour ainsi dire. Peupler le monde d'une progéniture qui circulera sous un autre nom, et personne ne saura qu'il s'agit de tes rejetons. Commettre Dieu en civil. Tu es Dieu, tu flânes dans la ville, tu entends les gens qui parlent de toi, et Dieu par-ci et Dieu par-là. Et quel admirable univers que le nôtre, et que d'élégance dans la gravitation universelle, et toi tu souris dans tes moustaches. Il faut se promener avec une fausse barbe, ou non, sans barbe, parce que c'est à la barbe qu'on reconnaît tout de suite Dieu. Et tu te dis en toi-même, le solipsisme de Dieu est dramatique, voilà, c'est ce que je suis, et eux ne le savent pas. Et un quidam te heurte dans la rue, va jusqu'à t'insulter, et toi, humble, tu dis pardon. Et tu passes. Aussi bien tu es Dieu, et si tu voulais un claquement de doigts, et le monde serait cendre. Mais tu es si infiniment puissant que tu peux te permettre d'être bon. Un roman sur Dieu incognito. Oh, inutile. Si l'idée m'est venue à moi, elle doit être déjà venue à quelqu'un d'autre. Variante. Tu es un auteur.
De quelle envergure, tu ne le sais pas encore, celle que tu aimais t'a trahi, la vie pour toi n'a plus de sens, et un jour, pour oublier, tu fais un voyage sur le Titanic qui coule à pic dans les mers du Sud. Une pirogue d'indigènes te recueille, unique survivant, et tu passes de longues années ignorées de tout sur une île habitée seulement par des papous, avec les filles qui te chantent des chansons d'une intense langueur, en agitant leurs seins à peine recouverts par le collier de fleurs de pois. Tu commences à t'habituer, on t'appelle Jim, comme ils font avec les blancs. Une fille à la peau ambrée s'introduit une nuit dans ta cabane et te dit
« Moi à toi, moi avec toi ».
Au fond, c'est beau, la nuit, de rester allongé sur la véranda à regarder la croix du sud, tandis qu'elle te caresse le front. Tu vis selon le cycle des aubes et des couchants, et tu ne sais rien d'autre. Un jour, arrive un bateau à moteur avec des Hollandais. Tu apprends que 10 ans sont passés. Tu pourrais partir avec eux, mais tu hésites. Tu préfères échanger des noix de coco contre d'autres denrées. Tu promets que tu pourras t'occuper de la récolte de la papaye. Les indigènes travaillent pour toi. Tu commences à naviguer d'îlot en îlot. Tu es devenu pour tous Jim de la papaye. Un aventurier portugais ravagé par l'alcool vient travailler avec toi et se rachète. Tout le monde parle désormais de toi dans ces mers de la sonde. Tu donnes des conseils au sultan de Brunei pour une campagne contre les Dayaks du fleuve. Tu réussis à réactiver un vieux canon des temps de Tipu Sahib, chargé de grenailles de clous. Tu entraînes une équipe de mallettes dévouées aux dents noircies par le Bethel. Dans un combat tout près de la grande barrière, le vieux Sampan, les dents noircies de Bethel, te fait un bouclier de son corps.
« Je suis content de mourir pour toi, Jim de la papaye, mon vieux Sampan, mon ami !»
Maintenant, tu es célèbre dans tout l'archipel entre Sumatra et Port-au-Prince. Tu traites avec les Anglais. À la capitainerie du port de Darwin, tu es enregistré sous le nom de Kurtz. Et désormais, tu es Kurtz pour tout le monde. Jim de la papaye pour les indigènes. Mais, une nuit, alors que la fille te caresse sur la véranda et que la croix du sud brille comme jamais,
aïe,
combien différente de l'ours, tu comprends, tu voudrais revenir. Seulement pour peu de temps, pour voir ce qui est resté de toi, là-bas. Tu prends le bateau à moteur, tu atteins Manille. De là, un avion à hélice te transporte à Bali, ensuite Samoa, les îles de l'Amirauté, Singapour, Tananarive, Tombouctou, Alep, Samarcande, Basra, Malte, et tu es à la maison. 18 ans sont passés. La vie t'a marqué, ta face est cuivrée par les alizés, tu es plus âgé, peut-être plus beau. Et voilà qu'à peine arrivé, tu découvres que les libraires étalent tous tes livres, en réédition critique. Il y a ton nom sur le fronton de la vieille école où tu as appris à lire et à écrire. Tu es le grand poète disparu. La conscience de la génération des jeunes filles romantiques se tue sur ta tombe vide. Et puis, je te rencontre toi, mon amour. Avec tant de rides autour des yeux et le visage encore beau qui se consume de souvenirs et de tendres remords. Je t'ai presque effleuré sur le trottoir. Je suis là, à 2 pas, et tu m'as regardé comme tu regardes tous les autres, cherchant un autre au-delà de leur ombre. Je pourrais parler, effacer le temps, mais dans quel but? N'ai-je pas déjà eu ce que je voulais? Je suis Dieu. La même solitude, la même gloriole, la même désespérance pour n'être pas l'une de mes créatures comme tout le monde. Tout le monde qui vit dans ma lumière et moi qui vis dans le scintillement de ma ténèbre. Va, va de par le monde, Guillaume S. Tu es célèbre, tu passes à côté de moi et tu ne me reconnais pas. Je murmure en moi être ou ne pas être, et je me dis « Bravo, Belbo, bon travail. Va, vieux Guillaume S., prendre ta part de gloire. Tu n'as fait que créer, moi, je t'ai refait. » Nous qui faisons enfanter les enfantements des autres comme les acteurs, nous ne devrions pas être ensevelis en terre consacrée. Mais les acteurs feignent que le monde tel qu'il est va de façon différente, tandis que nous, nous feignons de l'infini univers et des mondes la pluralité des cons possibles. Comment la vie peut-elle être aussi généreuse? Qui procure une compensation si sublime à la médiocrité?